un peu frustrant, dans la mesure que, bon, d'abord, très souvent, après une minute, je l'arrête parce que j'ai montré ce que je voulais montrer. Première chose, alors, c'est un peu en avant parce qu'on n'entend pas le reste. Et puis, deuxièmement, je ne vais sans doute pas mettre votre groupe préféré. Hein? Vous êtes une soixantaine, ça fait 60 groupes, ça fait 30 groupes préférés. Sans doute, ils ne vont pas y figurer. Alors, tant pis pour vous. Les miennes, par contre, c'est sûr. OK. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un peu théorie. Théorie et genre musical. Je vais vous montrer différents genres et dire pourquoi c'est important de voir comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la musique populaire, quand on fabrique la musique populaire, quand on vend de la musique populaire, quand on écoute de la musique populaire, quand on danse à la musique populaire et tout ça. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va être un peu par période ou par genre. Alors les genres musicaux, c'est un peu intéressant parce que ça commence, mais souvent ça ne finit pas. Alors si vous prenez par exemple un genre, deux genres, le punk rock, et les fanfares, donc les fanfares, les orchestres de cuivre. Alors les deux, ils commencent à un moment particulier. Les fanfares, ça commence dans les années 1850. Soudain coup, c'est super à la mode. Il y en a beaucoup, je vais en parler hein, dans le détail. Et après, c'est moins populaire, mais ça ne disparaît jamais. Même aujourd'hui, en Angleterre, tous les temps, il y a les concours de fanfares. Le punk rock, c'est un peu similaire. Ce qui va surprendre quelques-uns, ça commence à un moment bien précis, 1967. Bien précis, le punk rock, ça débarque sur la scène de la musique populaire. Et après, 20 ans après, c'est beaucoup moins courant, c'est pas dominant, mais ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, moi j'habite dans une petite ville dans le sud-ouest de la France, à Agen, et presque tous les mois, il y a des concerts de groupes de punk de Agen même. Alors, comme quoi, hein, c'est pas si petit que ça. Très souvent, les genres sont nés, mais ne meurent pas. Ils peuvent décliner relativement. Hein, ils peuvent être assez rares. D'ailleurs, ils peuvent être ce qu'on appelle des genres ouverts ou fermés. Un genre ouvert, c'est un genre qui permet de continuer à écrire de nouvelles chansons dans le style. Par exemple, le punk, ça continue. C'est relativement... Bon, c'est un peu ouvert parce qu'on continue à écrire de nouvelles chansons. En même temps, ça peut être considéré comme un peu fermé parce qu'il y a des thèmes qu'il est difficile de traiter dans le genre de punk rock. Hein? La chanson punk rock romantique, c'est pas évident. Hein? Si vous voulez, je n'ai jamais entendu une chanson de punk rock qui parle de comment c'est bien d'être papa. Hein? Et, quelque part, j'ai l'impression que si vous vouliez écrire une chanson sur ce thème-là, je vous assure que c'est très très bien d'être papa, quelque part, vous n'écrirez pas une chanson punk sur ce thème. Vous choisirez un autre genre, hein, si vous aviez le choix. Donc, les genres ouverts ou fermés, même chose pour les fanfares. Les fanfares, c'est assez fermé comme genre. Ce n'est pas une dénonciation. Mais en général, les fanfares jouent les mêmes morceaux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Ils peuvent avoir de meilleures interprétations, hein, ils ne sont pas absolument fermés. Mais souvent, c'est un peu les mêmes mélodies. Pas toujours. J'ai un ami qui est dans un fanfare dans le sud-ouest de la France, où ils font en fanfare des morceaux punk. On peut considérer que c'est réussi ou pas réussi, mais ça peut être ouvert. Mais comme genre, c'est relativement fermé. On sait un peu la même chose. Comme l'opéra, par exemple. Si vous aimez l'opéra, quand vous allez à l'opéra, vous allez voir sans doute les mêmes opéras que vous auriez vus il y a 20 ans. Et il y a de nouvelles opéras qu'on écrit, hein? Mais il y a surtout de nouvelles interprétations d'opéras classiques et relativement connues. Voilà, donc le genre, je me laisse emporter. Chaque semaine, un genre. Alors, la semaine prochaine, on va commencer par les genres, par date de naissance, si vous voulez. Donc on va commencer la semaine prochaine, semaine 2, on va parler de la musique folk. Donc dans le sens anglais, qui n'est pas tout à fait le même que le sens français, qui commence, on ne sait même pas où ça commence, certaines des chansons sont connues du 15e, du 16e siècle, et ça va jusqu'à aujourd'hui. Je viens d'écouter à la radio les prix folk 2008. Hein? Donc il y a des festivals de musique folk en Angleterre, grands, hein, de plusieurs milliers de personnes. Alors, on va commencer par ça, essayer de définir la musique folk, à quoi ça sert, quelle a été l'utilisation du folk dans différents moments, au 19e, au 20e, et le grand conflit, un grand débat, un grand conflit, sur certains qui disent non, le fog, c'est ça. Et d'autres qui disent non, 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 le fog, ça doit être ça. On va poursuivre la même semaine, donc la deuxième semaine, la révolution industrielle et les formes classiques de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est les fanfares, le minstrelsy. Le minstrelsy, ce sont des blancs qui se déguisent en noir pour chanter des chansons essentiellement, comment dire, des stéréotypes racistes des chansons des noirs. Extrêmement populaires, massifs. Comme truc. Souvent des chansons sentimentales, souvent des chansons qui disent qu'est-ce que le maître est gentil, genre chansons d'esclaves, c'est assez raide des fois à écouter. Hein? Ça va être le également semaine 2, et troisième moment, j'ai vu les deuxième moitié du 19e siècle, trois formes, les fanfares, le music hall, c'est un théâtre musical, hein, qui est massif, extrêmement populaire. Et enfin, les chorales où on peut avoir 300, 400, 500 chanteurs tous ensemble. Encore une fois, le musical, c'est assez intéressant parce que le minstrelsy a disparu, parce que bon, les gens ont fini par comprendre que c'est complètement raciste. Mais les autres deux continuent, minoritaires, hein, mais maintenant, le musical aujourd'hui, c'est pas courant hein, d'y aller, mais ça existe. Et la chorale reste assez fermé, on hein, chante les mêmes chansons année après année, mais ça reste une forme assez populaire. Ah oui, j'avais oublié une chose. Bien sûr, vous, votre travail, c'est de prendre des notes comme ça, j'ai l'impression que vous m'écoutez. Alors, ceux qui prennent des notes, merci. Les autres, si vous faites, au moins faites semblant, hein, ça me donne l'impression qu'on m'écoute. Yes. Troisième semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans la troisième semaine? On va commencer par la Première Guerre mondiale. Quelle était la musique populaire dans la Première Guerre mondiale, essentiellement du music hall, et quel était son rôle dans la guerre? Comment on faisait de la propagande, et de temps à autre de la propagande contre la guerre, mais presque toujours de la propagande pour la guerre. Il y a des merveilleuses, des chansons qui donnent des frissons, hein, des chansons de chanteuses très célèbres. Nous ne voulons pas vous perdre, mais nous pensons que vous devriez partir. Jeunes hommes, hein, dans ces chansons pour partir à la guerre, je vais parler de ça. Les années 20, l'arrivée des grandes révolutions technologiques. La radio, le gramophone, ça transforme la musique populaire. Absolument, ça ne va jamais plus être le même. L'arrivée du jazz et les salles de danse. Et les salles de bal qui vont transformer la vie sociale dans les années 20. Ça, c'est la semaine 3. C'est beaucoup, hein. La semaine 4. Attendez, parce que là, je fais pause pour une démonstration. Donc, revenons un petit peu au folk, et j'introduis un petit peu. Le folk, on va voir dans le détail hein, dans cette semaine 2, mais le folk a deux formes. Tout d'abord, des chansons traditionnelles, qui peuvent être très très vieux, mais parfois sont chantées de façon moderne. Alors ici, nous avons une version relativement traditionnelle, The Albion Band, du folk des années 60. Ce qui le rend typique de la musique folk, c'est tout d'abord le fait qu'on commence sans instrument, on commence avec la voix toute seule, c'est typique. On chante avec un accent régional, c'est absolument typique de la musique folklorique. Et également, c'est une chanson, en fait là c'est une chanson du 19e, c'est pas une chanson très très vieux. Mais je voulais vous montrer que parfois la chanson ça peut être vraiment beaucoup plus vieux, genre 17e siècle comme celui-ci, irlandais. « Oui, donc là, c'est bien sûr c'est de la musique folk irlandaise, une chanson très très vieille, mais une interprétation des années 70. Là, je voulais dire que je comprends l'Irlande dans l'histoire pour deux raisons. Si la musique folk irlandaise est bien différente que la musique folk anglaise, pour les autres formes, les formes modernes, musical, rock, punk, etc., en réalité, l'Irlande reste un peu tributaire de Londres. C'est-à-dire, le groupe de rock à Dublin, de quoi il reste ? C'est de se produire à Londres. Alors, il y a une certaine unité culturelle, c'est ça mon excuse pour inclure. Mais restons sur le folk, parce que le folk peut également être des chansons. Donc, quelles sont les valeurs du folk ? C'est souvent une idée d'authenticité, on en parlera en détail la semaine prochaine, une idée du peuple, une musique du peuple un peu opposée à la musique savante. Alors, on aime bien les accents régionaux, on aime bien parler de la vie quotidienne des gens pauvres. Il y a énormément de chansons folkloriques au sujet des femmes et les dangers des hommes. C'est pas surprenant parce que dans une société villageoise où si on se retrouve enceinte, c'est gravissime, c'est un peu normal que ça soit reflété dans la musique. Mais il y a eu aussi au XXe siècle des chansons folk écrites au sujet des différents corps de métier. Donc celui-ci, par exemple, c'est écrit par un Écossais et c'est aussi le sujet du travail des tisserands. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interviewé plein de tisserands, hein, pendant que ça existait encore, il a fait cette chanson qui dit « On serait perdu sans les tisserands, on n'aurait pas de manteau ». C'est un peu une chanson à la gloire du travail des métiers du textile. Ça s'appelle « Walk of the Weavers ». Je me suis. Je l'ai maintenant jusqu'à 18 ans. Oui, je suis sur un. Non, mais je suis vraiment sur les satins. J'ai vu l'emploi du temps de logiciel tout récemment. Je suis en département d'anglais. On n'a pas que des lettres. Voilà. Non, c'est option université. C'est option université. Ok. Le bois d'eau. Alors si jamais vous êtes très fort en anglais, vous auriez remarqué que vous n'avez rien compris. dialecte écossais, alors encore une partie des valeurs du folk de valoriser l'accent régional. Là où la production savante, le théâtre, l'opéra, a imposé l'anglais standard, et à la télévision aussi, le cinéma, pendant longtemps, là, la musique folk, c'est un peu en contre-culture, ils vont valoriser les accents régionaux. Un dernier exemple sur le folk, pour dire que on peut tout faire avec le folk, et si on a envie, je crois, on pourrait, j'arrive pas à le trouver. Non, ça va être pour la semaine prochaine, celui-là. Ok, encore un exemple pour ce dont j'ai déjà parlé, donc le fanfare, le classique. C'est ça. Ok, donc exemple assez typique de la musique des fanfares. Bien sûr, puisqu'on on attaque l'histoire de la musique populaire là comme une matière universitaire, il faut essayer, ce qui n'est pas si évident, de se détacher du simple question de si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Hein. Et puisque je ne suis pas musicien mais historien, je ne peux pas, quand un type de musique est très populaire, je ne peux pas supposer c'est parce que tout le monde est bête sur moi. Dans la musique en général, on fait facilement ça. Hein. Moi, je sais que ceux qui aiment tel type de musique, c'est parce qu'ils sont bêtes. Et moi, le type de musique bien, c'est celui que j'aime moi. D'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est simplement quand on essaie de faire tracer la ligne entre les deux types que là, les gens ne sont plus d'accord du tout. Donc, en général, ce qu'on va... En général, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de savoir pourquoi les gens ont aimé tel type de musique. Quelles sont les valeurs qu'ils y ont vues. Quelle est l'utilisation ça a eu dans leur vie. Hein? Et on n'est pas là, parce que les historiens ne sont pas payés pour juger. Hein? Les historiens sont payés, d'ailleurs pas très bien, pour analyser et pour comprendre. Maintenant, bon, après, on peut continuer à penser... Que la musique punk est la meilleure du monde, mais ou un autre d'ailleurs, je suppose que c'est possible. Voilà, mais on essaie de rester en objectif. Alors, je reviens au programme et je vous parlais un petit peu donc de la semaine 4. En semaine 4, je vais parler de la Deuxième Guerre mondiale, le moral, l'importance de la musique populaire dans la guerre pour remonter le moral, les grands conflits, parce que la BBC, la radio de l'époque, a une idée assez particulière de comment remonter le moral. Il y a un grand conflit. En particulier, il y a la montée de la chanson romantique. Il faut demander maintenant, il faut que vous demandiez à vos grands-parents ou même nos arrière-grands-parents, mais Jean, le plus connu, c'est les Frank Sinatra et autres, hein. Le Frank Sinatra, Bing Crosby, le crooner, hein, comme on disait à l'époque. Ce type de chanson, c'est nouveau. Ça apparaît dans les années 30-40. Et ça va prendre du temps à s'imposer. Ça va prendre du temps à s'imposer, particulièrement la BBC, par exemple, ne vont pas vouloir en mettre à la radio pendant la guerre, parce qu'ils considèrent que ça va saper la virilité de nos soldats. Hein? Donc il y a tout un conflit sur... D'ailleurs, chaque type de musique qui arrive, il y a tout un conflit. Aujourd'hui, on est encore en train de vivre un certain conflit, un certain débat et conflit autour du rap. Ce qui est un peu étrange, parce que le rap, c'est vieux maintenant, ça fait 20 ans. Mais on continue à voir régulièrement, dans la presse ou à la télé, hein, des grands envolées émotives au sujet de la musique rap. On en parlera. Ici, un exemple des années 50, en fait, de ce qu'on appelle un peu un crooner. Hein, mais il faut qu'on rappelle aussi que quand on a mis les chanteurs ou les artistes dans une catégorie, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Dans la catégorie folk, il y a beaucoup d'artistes très différents qui font des choses très différentes, qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais on est obligé d'utiliser des catégories parce que sinon on n'avance pas. Ici, donc, des années 50, un crooner un peu classique. Les conversations après le cours, merci. Donc, qu'est-ce qui est caractéristique? Donc, le texte, c'est « Vous êtes trop beau, trop belle pour être vrai. Je n'arrive pas à ne plus vous regarder. Je me sens obligé de vous regarder tout le temps. I can't take my eyes off you. » Alors, bon, tant mieux. La chanson d'amour personnalisée à la première personne est relativement nouveau. Hein? Lors de la Première Guerre mondiale, on va voir, il y en avait un ou deux, mais c'est pas courant. C'est un autre genre. Deuxièmement, c'est chanté avec orchestre. Ça, c'est la fin de la période du ce qu'on appelle le big band. Donc big band, littéralement, c'est grand orchestre, mais en général, il y a 12 ou 16, c'est pas si grand que ça. Hein? Mais disons que c'est avant que l'amplification permettait de danser à des disques. Il ne pouvait pas y avoir de discothèque dans les années 40 parce qu'ils n'avaient pas l'amplification pour que tout le monde écoute. Si vous vouliez que 200 personnes écoutent quelque chose, il fallait forcément une orchestre en direct. Sinon, c'était impossible. On avait le gramophone, mais ce n'était pas assez fort. Donc là, un peu le genre crooner. Il n'a pas envoyé l'armée, non? Ok, voilà. Donc ça c'est un peu dans la semaine 4, toute cette question de morale, romantisme et les différents conflits qui existent là-dedans. Par la suite, ah oui, je voulais dire une chose sur les paroles. Il peut y avoir des gens ici qui ne comprennent pas trop l'anglais. En principe, c'est pas un problème. Évidemment, si on comprend les paroles, c'est mieux. Surtout qu'en Angleterre, les paroles sont centrales à la musique populaire. Et c'est vrai que les Anglais, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que les Français puissent écouter, que ce soit les Beatles ou System of a Down ou Arctic Monkeys ou quoi que ce soit, sans comprendre les paroles. Ça nous dépasse. Pour les Anglais, une chanson rock, par exemple, c'est des paroles avec la musique avec. Et bien sûr, en France, c'est souvent pas le cas. C'est souvent la musique qui compte d'abord. Alors ça, c'est une différence d'appréciation. C'est assez intéressant parce que, bon, évidemment, en tant qu'Anglais en France, les gens, ils me disent souvent, mais vous connaissez les paroles de toutes les chansons. En fait, en Angleterre, tout le monde connaît les paroles de toutes les chansons. Ça, c'est le normal. Ça, c'est l'habituel. Donc, là, on va regarder ça un peu plus tard. Vous êtes encore avec nous pour l'instant, c'est bon? Je peux continuer? Merci. Ok. On va passer aux années 50. Les années 50, c'est la reconstruction après la guerre. C'est les 30 glorieuses. On entend l'expression si souvent qu'on ne se rend plus compte. Hein, les 30 glorieuses, c'était un changement fondamental dans la vie des gens. Tout d'un coup, pour la première fois, ils peuvent se payer des vacances, mais des vraies vacances, de partir en vacances. Les hôpitaux sont gratuits. Il n'y a plus de chômage. En Angleterre, pendant 25 ans, il n'y a plus de chômage. C'est le rêve, quand même. Vraiment une transformation de la vie des gens. J'ai oublié, ça c'est une feuille de présence, vous pouvez bien
c'est bien de pouvoir regarder l'eau. C'est pas l'habitude, c'est bien ça.
Les petits là. Ok. Et alors, pendant cette période, on a donc différents types de musique qui arrivent. Pour la première fois, on a de la musique qui est faite par et pour les jeunes. Donc ça, c'est l'invention dans les années 50 de la musique faite par et pour les jeunes. Parce que pour la première fois, les jeunes, ils ont un petit peu d'argent. Et puis aussi une certaine indépendance. Dans les années 30, bon voilà, vous quittez l'école, 13 ans, vous faites le métier que vous devez faire. Non, pourquoi pas? Pourquoi vous feriez autre chose? Donc il n'y a pas cette indépendance qui permet de produire une expression musicale. Dans les années 50, on va regarder le scaffold, c'est le premier, et qui bien sûr, sans doute le moment le plus important dans l'histoire du XXe siècle de la musique populaire, c'est l'arrivée du rock and roll, hein, venue des États-Unis, mais très rapidement établi en Angleterre et à la fin, tout à la fin des années 50, il va y avoir ce qu'on appelle l'invasion britannique, toute une série de groupes, dont les Beatles, mais les Beatles c'est un sur 40 groupes qui envahissent le marché mondial, et j'ai deux exemples à vous montrer. Il y a The Dave Clark Five, si je les trouve, The Dave Clark Five, c'est la musique du rock and roll anglais typique de la fin des années 50. Et bien sûr, sans doute le plus connu, mais sans doute aussi le plus doué de ces groupes, c'est les Beatles, qui vont commencer avec des choses pas très différentes de ce qu'on vient d'entendre, mais qui vont très rapidement vouloir renouveler chaque année leur musique et vont aller très loin. Et là, dans seulement quelques années, ils vont produire des choses comme ça. Thank you. Ok, c'est une chanson importante parce que ça montre vraiment comment les Beatles ont vraiment un peu cassé la méthode antérieure. Qu'est-ce qu'on voit là? D'abord, on voit une utilisation de la voix qui, à l'époque, est complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, on a un peu le droit de tout faire avec la voix. Mais c'est parce qu'il y avait les pionniers pour le faire. Alors là, à l'époque, c'était très choquant hein, ce qu'ils font avec la voix. Deuxièmement, regardons les paroles. C'est un petit peu répétitif, c'est « Why don't we do it in the road ?» Okay? Donc il y a deux choses là-dessus. D'abord, c'est un peu osé de faire une chanson entière autour d'une seule phrase. Et puis deuxièmement, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est « Pourquoi on ne ferait pas au milieu de la chaussée ?» Ils disent pas de quoi ils parlent, mais bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que le premier rock'n'roll était resté très très romantique, hein? Hein? Très romantique. Vous êtes l'étoile dans ma vie, etc. C'est pas le cas de tous les genres musicaux. Par exemple, les blues, donc qui s'est resté surtout une forme américaine d'une musique noire américaine. Pouvait être assez direct. Hein? C'est le blues du lit qui est vide. Hein? Des choses comme ça. Il y a des blues sur le fait que mon mari ne me fait plus jamais l'amour. Ça, c'est les années 30. Hein? C'est les années 30. Tandis que le rock reste relativement poli et d'ailleurs, la musique populaire en général reste assez polie, hein, certaines façons. Hein. Même les formes qui se trouvent les plus choquantes, en réalité, c'est pas. Ça va pas très loin. C'est assez étrange, parce que si vous regardez le cinéma, à côté de la production de films, il y a beaucoup de films pornographiques produits. Si vous regardez les romans, il y a plein de romans, il y a plein de romans pornographiques. Dans le rock, ça n'existe pas. Il n'y a pas une tradition parallèle. Non, c'est peut-être parce que la musique en soi est très sensuelle. Alors il n'y a pas. C'est un phénomène que je constate. Je n'essaie pas de provoquer des vocations. Ok. Voilà, donc les années 50, l'effet, bien sûr, de la société sur la musique, mais aussi l'effet de la musique sur la société. Et là, après, ça va être un peu la révolution permanente, ça va être le changement permanent, où le rock and roll, ça va devenir, aller dans tous les sens. Il va y avoir du folk rock, du rock qui va évoluer vers ce qu'on appelle en anglais le heavy metal, ce qui va devenir le rock, comment dire en français, le rock paillette, le glam rock, tout ça dans quelques années, hein, dans 10 ans, il y a 5-6 nouveaux genres. Issus du rock, folk rock, glam rock, heavy metal, et ce qu'on appelle le rock progressif. Progressif, c'est-à-dire que plus sophistiqué au niveau musical. Led Zeppelin, c'est le plus connu, c'est-à-dire au lieu d'écrire des chansons d'amour de 3 minutes, on écrit des chansons rock de 15 minutes avec un thème vaguement philosophique. Hein? C'est très nouveau. Hein? Et Led Zeppelin, Stairway to Heaven, c'est sans doute le plus connu comme exemple. J'ai quelques exemples de cette période, donc les années 60. Fin des années 60, début des années 70, nous avons celui-ci qui est un peu folk électrique. C'est Jethro Tull. Je crois. Fait partie de la chanson. I'm gonna make it. Donc un peu folk électrique, c'est les années 70 qui le permet, la dernière partie des 30 glorieuses. Entre temps, le rock paillette, qui était très critiqué par certaines personnes qui trouvaient que c'était purement commercial, on y reviendra. Presque tout le monde qui parle de la musique populaire est d'accord qu'il y a de la musique populaire authentique. Je dis musique populaire dans le sens le plus large, hein, du musical, le rap, le rock, le techno, tout ça. Tout ce qui est populaire, c'est musique populaire pour moi, dans ce cours. Et tout le monde est d'accord qu'il y a de la musique populaire authentique. Il y a du reggae authentique, du punk authentique, du folk authentique. Et puis, il y a de la musique commerciale. Tout le monde est d'accord sur ça. Sauf que, essayez de tracer la ligne, et les gens, ils sont plus d'accord, mais du tout. Et vous pouvez passer de longues soirées la fin de votre adolescence et quand vous êtes un adulte à vous engueuler avec vos amis sur si tel ou tel groupe est vraiment punk ou vraiment rap ou seulement commercial. Je sais, j'ai passé plusieurs années à faire ça. C'est pas, vous avez compris, ce n'est pas la. Vous avez vraiment d'autres objectifs ou vous êtes là pour la même raison que. Merci. Ok. Oui, donc évidemment, c'est assez amusant comme passe-temps. Ce n'est pas vous avez compris, ce n'est pas le travail d'un historien, hein, de dire, ah voilà, ça c'est authentique, ça c'est commercial. Mais on va regarder dans les semaines qui suivent comment ces deux étiquettes sont assez problématiques en fait. Sont assez problématiques et très difficiles de faire. Donc ici, quand même, attaquer à l'époque pour être commercial, c'est les Bay City Rollers, ça c'est du rock paillette. Je vous montrerai plus tard des photos pour les voir. Sinon. Deux choses sur cette chanson. Tout d'abord, le texte donc, du refrain, c'est « We sang Shangalang, we ran with the band, singing doo-hoppy doodle-ay-ay. » Si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est absolument pas grave, ça veut strictement rien dire. Hein. C'est « Nous avons chanté Shangalang et nous avons couru avec la bande en chantant doo-hoppy doodle-ay-ay. » Vous avouez que c'est mieux en anglais, je ne comprends pas. Voilà. Ok. Bon, assez intéressant. Donc ça, c'est une caractéristique de la musique populaire, mais pas de tous les genres. Et c'est le non-sens. Les phrases de non-sens, ça a une longue histoire dans la musique folk. Beaucoup de chansons qui, je pense à une chanson irlandaise. Dans le refrain, c'est « What for the daddy-o, what for the daddy-o ». Utiliser des syllabes du non-sens, c'est il y a une longue tradition. Et dans le rock and roll, bien sûr, ça existe. « Who put the bop in the bop, she walk, yeah, etc. » C'est assez intéressant. Excusez-moi, mais je vais vous demander d'aller prendre un café à la place. Hein. À moins que vraiment vous voulez rester. Hein. C'est un erreur. Par contre, dans d'autres genres, c'est interdit ce non-sens. Vous avez bien vu que quand il y a du rap, le rap, vous ne pouvez pas faire logiquement une chanson rap où au milieu vous dites do what you do be doing. Et ça ne marche pas dans le rap. Il y a des genres où ça ne marche pas et des genres où ça marche. Même chose pour le rock progressiste. Led Zeppelin ne vont jamais, ne vont jamais rajouter des phrases de non-sens. Donc, l'utilisation du non-sens, qui est très intéressant, hein, c'est, psychologiquement, ça a un rôle assez. Je ne sais pas si je peux vous rappeler de The Police. Yeah? Do-do-do-do-da-da-da is all I want to say to you. Alors, ça peut être assez fort, hein, c'est pas du tout ridicule. Donc, une chose qu'on pourra regarder. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que une des valeurs centrales de la musique folk, c'est l'authenticité et les racines. Une des valeurs centrales de la musique rock, dans toutes ses formes, c'est l'énergie et le dynamisme. Ça, c'est au centre. Maintenant, ça peut être un petit peu difficile à voir des fois, parce que ce qui semble dynamique dans les années 70, dans le monde s'accélère, ça n'a pas forcément l'air si dynamique pour vos oreilles, pour vos jeunes oreilles. Même chose pour le punk rock ça semblait extrêmement dynamique à la fin des années 70 parce qu'on avait, eu 10 ans de chansons mielleuses avant, mais aujourd'hui ça peut pas être. Et bon, par contre, bon, je sais pas, aujourd'hui certains types de rap restent extrêmement basés sur la rapidité, le dynamisme. Ça c'est une valeur centrale, l'énergie, pour tout ce qui est rock, et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, le rap, c'est sorti du rock. Sans le rock, il n'y a pas de rap. On peut adorer le rap et détester le rock, mais s'il n'y avait pas eu de rock, il n'y avait pas de rap. Il y a une continuité là-dedans. Voilà, donc ça c'était pour dire pour les années 70, et à la fin des années 70, 76, 77, on passe au punk. Et là, un seul exemple là. Une autre chose sur les cours, vous avez compris, on n'a pas le droit de mettre la volume qu'il faut pour certains types de musique. Alors, je m'excuse, mais bon, on est dans la fac, alors je n'ai pas le droit de le mettre 10 fois plus fort, ce qui est normal pour ce genre de musique. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a le bouton approprié. Mais c'est assez intéressant parce que ça c'est un peu étrange de l'écouter comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le punk? Je pense que la première chose, la valeur centrale du punk, pour moi, hein, c'est pas des faits, hein, c'est mes opinions, hein, vous pouvez contester aussi, merci beaucoup, c'est la colère. Le punk, c'est le théâtre de la colère. Notez bien que, en tout cas, dans mon interprétation, le punk n'est pas la violence. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous allez sur scène, vous jouez de la guitare électrique et vous chantez « Il faut tuer les flics », ça, ce n'est pas de la violence. La violence, c'est aller chercher un policier et l'attaquer. Si vous répétez dans le garage et puis vous allez sur scène et puis vous jouez de la guitare électrique et vous dites « Il faut tuer les flics », ça, c'est pas de la violence, c'est du théâtre, la violence. C'est du théâtre, c'est comme les chansons punk, souvent, le thème, c'est « Nous ne croyons à rien ». C'est évidemment faux. Si vous croyez à rien, pourquoi vous répéterez dans votre garage toute la semaine pour pouvoir le dire sur scène? Ça ne correspond à rien. C'est le théâtre de ne croire à rien. Donc c'est une forme de spectacle et c'est quelque chose qui me semble fondamental et qui souvent est mal compris. ceux qui ont mal compris la différence entre le théâtre et la réalité. Parce que bien sûr, si vous avez envie d'être violent envers un certain groupe de la population, que ce soit les policiers ou d'autres, la dernière chose qu'il faut faire, c'est aller sur scène et dire à tout le monde que c'est ce que vous voulez, hein, parce que vous allez vous faire attraper tout de suite. Non, il faut le faire dans la clandestinité. Voilà, je ne cherche pas non plus là à provoquer des vocations socialement. Voilà donc le punk de la colère, mais d'autres choses très importantes au niveau formel. La voix a changé. La voix devient donc la voix de la classe ouvrière blanche, si vous voulez. L'accent londonien devient presque obligatoire. Le héros a complètement changé. Le héros, on avait le héros du rock, c'est un peu le Elvis Presley ou des équivalents. On avait le héros du folk électrique, c'est un peu les hippies, c'est pas si personnalisé. Mais le héros du punk, c'est un peu le loser. C'est un peu le loser. La chanson d'amour punk, c'est sur comment je voulais et ça n'a pas marché. Alors il y a une nouvelle esthétique du loser qui est centrale au si toute une série de chansons sur comment j'ai envie d'être avec toi et tu n'as pas envie. Ça peut arriver, hein. Ça arrive à tout le monde. Donc un vrai esthétique de loser et aussi qui a un lien évident avec l'arrivée de la crise et le retour du chômage de masse. C'est pas directement, il n'y a pas que ça, hein. Mais il me semble évident qu'en 55, on ne pouvait pas produire du punk. Parce que si on chantait « La jeunesse en a marre de cette société », les gens disaient « Mais comment ça, les choses sont meilleures chaque année ?» Qu'est-ce que tu racontes hein? Alors, ce n'était pas possible. Ça reflétait en partie donc ça. J'ai un dernier exemple donc des années 70 d'un autre genre, c'est le heavy metal. Le heavy metal, et ici nous avons Judas Priest. Peut-être vous remarquez quelques similitudes entre le funk et le heavy metal, en tout cas là. Il y a des différences importantes aussi. Bon, tout d'abord, ça c'est un groupe qui s'appelle Judas Priest. Les titres des groupes, c'est toujours extrêmement important. Judas Priest, donc prêtre Judas. Bon, si vous vous rappelez de la Bible, Judas, ce n'était pas un gentil, c'était un méchant. Alors, c'est censé être choquant en soi, hein, le prêtre Judas. C'est un peu, et d'ailleurs le heavy metal, il y a toute une esthétique de satanisme, hein? Le diable et tout ça. Tout comme plus tard avec d'autres. Et le titre de ce morceau, c'est Screaming for Vengeance. Nous hurlons pour avoir de la vengeance. C'est un passe-temps comme un autre. Hein? Vous avez hurlé pour de la vengeance récemment? Oui, c'est absolument typique. Du heavy metal par le thème, parce que ça c'est l'autre chose. Les genres musicaux ont le thème préféré. Ça ne veut pas dire que c'est absolument impossible de faire autre chose, mais il y a les thèmes préférés du heavy metal, il y a les thèmes préférés du punk, il y a les thèmes préférés du folk. C'est très important tout ça. Et par exemple, le punk s'est prêté assez facilement à des questions directement politiques. Tandis que le heavy metal, à ma connaissance, mais il doit y avoir le groupe de heavy metal qui l'a fait, mais ce n'est pas dans le centre du heavy metal de parler de la date détail, du détail des situations politiques. Dernière chose là, sur les deux derniers morceaux, dans les années 70, on a une nouveauté, et c'est qu'il ne semble plus si important qu'on puisse comprendre les paroles. Alors, tous les parents dans les années 70 se plaignaient, mais la musique que tu mets, on ne comprend même pas les paroles. Et bon, on leur répondait, tu n'as pas à lire, tu n'as qu'à lire, c'est marqué, tu sais lire, non? Mais bon, ça ne se faisait pas trop. C'est une nouvelle esthétique où l'idée, c'est d'avoir les paroles par écrit, ailleurs, par écrit, et de, finalement, de les connaître tellement par cœur que à la 10e ou la 20e écoute, on a accès aux paroles. C'est un autre élément de la musique populaire. Il y a des morceaux qui sont faits pour aimer tout de suite. Vous le mettez, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Il y a d'autres morceaux, voire parfois des genres musicaux entiers, où il faut vraiment prendre le temps pour connaître le genre avant d'aimer. Et alors c'est vrai que s'il y a des gens qui n'aiment pas le rap, vous risquez pas de l'aimer en écoutant 3-4 morceaux que je vais mettre. Par contre, un jour, accidentellement, vous vous retrouvez avec un copain qui adore ça et qui, à la longue, vous y introduit, vous pouvez le découvrir, mais parfois ça prend du temps. La musique, je vais en parler, est très extrêmement sectaire. La musique populaire au XXe siècle, depuis les années 50, hein, est extrêmement sectaire dans la mesure que moi j'adore les romans de John Grisham. D'autres gens aiment d'autres types, aiment les romans de science-fiction. Je ne les déteste pas, ces gens. Par contre, adorer le rap et détester les gens qui aiment le techno, c'est pas si rare que ça. La musique, c'est très, très émotive. Hein? Même chose, comme je dis, moi j'aime beaucoup lire les romans de John Grisham. Je n'ai jamais vu des gens porter un t-shirt qui dit « Moi, j'adore les romans de John Grisham ». Tandis que la musique, bon, on va voir, qui ici a un t-shirt quelque part avec le nom d'un groupe ou d'un artiste, un musicien? Allez, avouez, moi aussi, oui. C'est assez intéressant. Il n'y a que la musique qui nous donne envie, pas seulement de l'écouter, mais de dire aux autres personnes qu'on est le genre de personne qui écoute ce genre de musique-là. Est-ce que vous pouvez imaginer un t-shirt avec le nom d'un groupe dessus que vous refuserez de porter? Hein? Alors, on va voir les garçons. Un t-shirt Spice Girls, vous le porterez facilement? C'est délicat, hein, il faut le dire. Hein? C'est pas si évident. C'est pas si facile. Il y a des t-shirts un peu partout. Je pense que tout le monde veut bien porter Bob Marley ou quelque chose. Il y a des choses faciles. Mais intéressant, donc, c'est-à-dire que la musique a un rôle dans la vie quotidienne des gens qui est tout à fait à part. Tout à fait à part. Hein? Il n'y a rien d'autre pour comparer. Ok, donc ça c'était un peu les années. Oui, non, je sais que tu heurtes pour la vengeance, mais c'est bon. Alors, on arrive aux années 80, c'est l'arrivée donc, de la crise du chômage de masse et du punk, donc. Mais aussi en Angleterre, le développement de beaucoup d'autres types de groupes musicaux, donc notamment tout ce qui est reggae, ska, two-tone, parfois la différence entre la ligne entre les genres n'est pas tout à fait évidente, qui revendiquent d'être des noirs et des blancs qui jouent ensemble, c'est nouveau. C'était très très. Dans les années 70, j'ai pas en tête un seul exemple d'un groupe qui n'était pas tout blanc ou de temps à autre tout noir, en général tout blanc. C'est nouveau et c'était revendiqué. Ici, nous avons deux exemples. D'abord, Madness. En fait, c'est 80, je crois. Thank you. Ok, donc Matas, qui illustre un autre élément de la chanson populaire, vous avez peut-être compris le refrain, c'est « Notre maison est au milieu de notre rue ». C'est un peu normal, au fond. Intéressant, et le texte est une description de la vie quotidienne dans une maison ouvrière, une famille ouvrière normale. Intéressant, il y a une longue tradition, depuis le music hall, de faire des petites tranches dans une chanson, de décrire des petites tranches de la vie quotidienne. Alors c'est très intéressant de savoir pourquoi. Ça a un côté valorisant de chanter au sujet des choses que nous voyons tous les jours. Hein. Et donc de ne pas chanter, c'était plus le choix au début du XXe siècle, ne pas chanter des chansons sur Dieu ou sur la roi ou tout ça, hein, des grandes lignes, mais dire nous aussi on a, c'est intéressant. Et il y a toute une série, moi je dirais que depuis les années 70, le nombre de thèmes qu'on peut traiter a vraiment, c'est vraiment beaucoup ouvert et on trouve des choses assez intéressantes. Je n'ai pas d'exemple ici, mais par exemple il y a une chanson de Catatonia qui est sur la dispute entre amoureux, qui est très très raide, mais c'est un thème que 20 ans avant, non, la chanson d'amour, c'est la chanson d'amour, tout va bien. Éventuellement, il y a la chanson de la déception amoureuse, mais la chanson sur comment on s'adore, mais on s'engueule tous les jeudis soirs, hein, ça n'existe pas. Hein. Donc ça, c'est, il y a un certain nouveau réalisme qui est sorti. Dans cette période. Donc ça va être dans la semaine, dans la séance 6, et j'ai encore un exemple, c'est The Specials. Donc Free Nelson Mandela, donc libérer Nelson Mandela, bien sûr aujourd'hui président, non il n'est plus président d'ailleurs, et récemment président de l'Afrique du Sud, emprisonné pendant 26-27 ans, c'était la cause célèbre des années 70, et la musique populaire, un de ses rôles parfois, c'est de faire de la politique. Alors c'est intéressant parce qu'il y a toute une série d'opinions différentes chacun a le droit au sien, sur si la musique devrait ou ne devrait pas faire de la politique. C'est assez intéressant. C'est aussi, c'est un domaine très moraliste, la chanson populaire. En général, les gens, surtout les musiciens, vont vous dire la musique devrait faire ceci ou la musique devrait pas faire cela. De quoi ils se mêlent, quelque part. Il y a peu l'idée que chacun fait comme il entend, mais il y a différentes manières que la musique populaire, la chanson populaire, peut faire de la politique. Un des exemples, c'est des campagnes spécifiques, libéré Nelson Mandela. Il y a toute une série d'autres. Pour un exemple américain, Bob Dylan a fait des chansons spécifiques sur les campagnes. Il y a toute une série en Angleterre aussi. Deuxièmement, il y a faire de l'argent ou du soutien pour différentes campagnes. Pendant la grève des mineurs dans les années 80, il y a toute une série de concerts pour faire de l'argent. Bruce Springsteen a fait un grand concert pour faire de l'argent pour les mineurs. Enfin, un exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toute une série de concerts en Angleterre dans la campagne Love Music Hates Racism. Donc, nous adorons la musique, nous détestons le racisme. C'est plus court en anglais. Love Music Hates Racism. Et ça produit, bon, certains des plus connus d'aujourd'hui font ces concerts pour. Il y a aussi des choses plus caritatives, genre Live Aid et Live Aid. Qui sont très débattus politiquement, hein. Il y a des gens qui trouvent ça génial, des gens qui trouvent ça nul. Notamment, il y avait un grand dans les années 80, donc vous avez peut-être entendu vaguement parler, c'était le premier Live Aid de Bob Geldof, et donc c'est le premier qui montait une chanson au début, juste avant, il a monté une chanson où chantée par 35 des plus connus, pour faire de l'argent pour la famine en Éthiopie à l'époque. Et c'est assez intéressant parce que le texte de la chanson dit qu'il y a la famine parce qu'on ne peut rien cultiver en Afrique parce qu'il ne pleut jamais. Texto, hein. Where nothing ever grows. Donc, nous, ceux qui savons un peu de géographie, nous savons que c'est un mensonge total. C'est absolument faux. À la fois géographiquement et politiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que Bob Geldof, il disait, oui, je sais ça, mais pour vendre le disque, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ce qui compte, c'est faire de l'argent. C'est pas grave si la politique, le contenu politique du texte, c'est faux, c'est pas grave. Donc, un grand débat a toujours eu lieu sur ce genre de choses avec certaines personnes qui considèrent que l'essentiel, c'est de collecter des fonds pour les gens très pauvres, et d'autres qui disent que, bon, un peu moins de paternalisme, ce serait pas mal. Donc, l'intervention politique, très variée, très débattue, et là, ça, nous allons voir un petit peu. Nous allons poursuivre donc pour le 8e séance avec donc le rock plus récemment, donc le rock, voilà, le rock après les années 80. Je ne sais pas si j'ai des exemples précisément ici. Oui, donc ici un exemple des Arctic Monkeys. Écoutez la voix. Hein. Ok, alors bon, il y a eu un développement, surtout dans le rock, des types de voix acceptables. Dans les années 50, personne n'aurait permis de faire une disque avec une voix donc très rock. Encore une fois, un petit peu post-punk, c'est pas du punk, mais il y a un peu l'esthétique du loser, du désespéré, du petit gars qui n'y arrive pas. Le thème, c'est de se retrouver dans une fête où tout le monde fait semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, hein? Donc Fake Tales of San Francisco, c'est les gens ils se racontent des souvenirs de San Francisco, mais en fait ils savent ils n'y ont jamais été, quoi. Ils n'y ont jamais été. Ça c'est Arctic Monkeys. Arctic Monkeys sont importants aussi pour une autre raison, au niveau de l'histoire de la musique populaire et de la technologie. C'est le premier groupe qui s'est fait connaître directement par Internet, et après les chaînes de radio et les maisons de disques s'y sont intéressées, après que presque tout seul, ils l'ont mis en téléchargement. Alors une transformation assez importante dans la technologie. Je vais beaucoup parler de la technologie et la musique populaire parce que ça transforme régulièrement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et ça détermine ce qui est possible. Et c'est vrai que l'Internet, ça permet des choses qui sont tout à fait surprenantes. Par exemple, j'ai oublié quel groupe c'était, mais il y a un des groupes, et sur le site, on peut télécharger les différents morceaux de la chanson. On peut télécharger séparément le basse, la batterie, la voix. On fait le mix soi-même à la maison et on envoie, il y a un concours pour voir qui a fait le meilleur remix de la chanson, donc complètement nouveau comme idée. Et ça a un lien à une autre très grande question sur la musique populaire, et c'est la question de l'audience, le public qui participe. Parce qu'une des visions universitaires de la musique populaire, c'est que c'est de la consommation passive des produits industriels. C'est l'idée que, tout comme, selon certaines personnes, je dis pas moi, selon certaines personnes, le fast-food, c'est simplement de la mauvaise nourriture donnée aux gens, hein.